voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Que faut-il faire pour promouvoir la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles de la RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Bienfait Lungunia. Il est journaliste des médias en ligne 77.cd. Bonjour, monsieur Bienfait.
Bonjour, monsieur Tati.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Okapi Service. Deuxième invité, il s'agit de monsieur Martin Milolo. Il est coordonnateur de la plateforme de jeunes pour la justice climatique. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à tous.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081 711 50 01 sur internet. Vos commentaires, questions, suggestions sur le son, les bienvenus au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Tati Mafoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise ce numéro et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. L'exploitation des ressources naturelles à Bassoko, un des 8 territoires de la province de la Tchopo au nord-est de la RDC, n'est pas perçue par les communautés locales comme étant un moyen de développement des communautés locales. Excusez-moi la redondance. Ces populations attribuent cet état de pauvreté dans lequel elles se trouvent à la mauvaise foi des exploitants forestiers et miniers qui ne respectent pas, dans la plupart des cas, les cahiers des charges, clauses sociales que l'on conclut entre les communautés locales et les entrepreneurs de ce secteur selon une enquête collective qui a été diligencée sur terrain par une équipe de journalistes. Que faut-il faire pour promouvoir la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles en RDC? Nous en parlons avec nos deux invités. Il s'agit de Bienfait Lungunia, qui est journaliste des médias en ligne 7 sur 7.cd. Il a été dans cette équipe du tournage de ces grands reportages sur terrain. Il y a également monsieur Martin Milolo, qui est coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Monsieur Bienfait, vous étiez sur terrain. Dites-nous quels sont les constats que vous avez faits sur terrain à la suite de ces reportages.
Merci Monsieur Tati pour l'invitation et pour l'opportunité de m'accorder pour parler de traverser le terrain. Oui, on était à Bassoko. Le constat n'a pas été bon. Il a été amer. La pauvreté, manque d'infrastructures, c'est ce qui caractérise Bassoko. Et pourtant, c'est un territoire très riche en ressources naturelles, les bois, les forêts.
Les minéraux aussi.
Les minéraux, que sais-je encore. Mais ça ne concorde pas avec la vie de la population, malheureusement.
Monsieur Martin Milolo, pensez-vous que les ressources naturelles doivent, qui sont exploitées, au fait, doivent, la population, les communautés locales doivent en contrepartie bénéficier des retombées des ressources que mobilisent ces exploitants forestiers?
Merci beaucoup, monsieur Tati. D'abord, la question, ce n'est pas dépenser, c'est une obligation. C'est une obligation aujourd'hui qui est légale parce que nous avons le code forestier, nous avons le code minier, nous avons plusieurs lois qui obligent, que ce soit aux autorités nationales, que ce soit aux entreprises, de pouvoir respecter les obligations en rapport avec le développement local, le développement des communautés. Ça commence par l'accès ou l'autorisation que ces exploitants ou les entreprises doivent avoir pour aller sur terrain. Déjà au niveau national, il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Mmh. Parmi cette procédure, il y a notamment le respect du consentement libre et éclairé, ce qu'on appelle CLIP, des communautés concernées par l'activité se trouvant dans les territoires où on veut aller. Mmh. C'est d'abord la première des choses. Une société, une entreprise qui n'a pas ça, a fait une exploitation irrégulière et est passible aux poursuites judiciaires. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on a rempli toutes les obligations au niveau national, quand on descend sur terrain, il y a plusieurs obligations qu'il faut faire. Il faut signer un cahier, comme vous avez dit, le cahier des charges avec les communautés locales. Il faut préciser que le cahier des charges, c'est en rapport avec l'activité précise qu'on est en train de faire. Mais aussi, il y a d'autres obligations. L'entreprise ou la société qui exploite doit également contribuer à la réalisation de la mise en œuvre du plan de développement local. Parce que toutes les entités locales doivent en principe avoir un plan de développement local auquel ces entreprises, ces sociétés doivent contribuer. Et donc, c'est une obligation. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'exploitation des minerais, il y a ce qu'on appelle la redevance minière de 15% qui doit être versée au niveau de l'entité locale pour financer les activités de développement communautaire, les écoles, les hôpitaux,
les routes, les
stades, ainsi de suite. Il y a également la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise pour également contribuer au développement local de ces communautés. Et en ce qui concerne l'exploitation forestière, il y a beaucoup d'obligations qu'il faudra faire, mais ça ne se limite pas seulement aux forêts, aux minéraux. Nous avons aussi de l'eau, nous avons aussi notre soleil, nous avons beaucoup de choses. Les ressources naturelles englobent plusieurs choses,
oui.
Et il y a plusieurs obligations légales qui doivent être remplies. Malheureusement, le constat que 767 a fait sur Bassoko n'est pas un cas isolé. Si vous allez au niveau des lois là-bas, vous allez trouver la même chose. Si vous allez au Congo central, on a toujours eu des problèmes entre
Perenco, les communautés locales, les exploitants, les forestiers et autres.
Mm. Et si vous allez au Kasaï, c'est la même chose. Il y a Sakima qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Et donc, il y a beaucoup de choses et ça pose un problème à deux niveaux. Le problème au niveau de la gouvernance en général, et le problème au niveau de la redevabilité.
Oui, monsieur Bienfait, vous étiez sur terrain, je le rappelle, à Bassoko, dans la province de la Tchopo. Dans cette zone, on exploite, il y a les exploitants forestiers surtout, qui sont dans l'exploitation des bois de valeur et des bois d'œuvre. Dites-nous, est-ce que cette exploitation-là permet quand même de développer la contrée? Est-ce qu'ils ont des routes, ils ont des écoles, des centres de santé viables?
Malheureusement, c'est le contraire sur le terrain. Par rapport à ce qu'a expliqué mon collègue ici à côté,
Martin,
tout ce qu'il a expliqué n'est pas respecté à Bassoko. Et nous, on avait été, par exemple, dans le secteur de Yaliwasa, où est implantée la société Fodeco, Foresterie pour le développement du Congo. Et arrivé sur place, la population dit quoi? Ils sont venus, on s'était réveillé le matin comme ça, on voit des blancs qui arrivent avec leurs accompagnateurs. Et du coup, ils ont dit qu'ils sont venus exploiter
les
bois chez nous. Ils n'ont pas pris le temps de négocier avec nous, les CLIP, comme l'a dit Martin. Ils n'ont pas pris le temps de faire l'étude d'impact environnemental et social. Ils n'ont pas pris le temps de signer les cahiers de charges avec nous. Par contre, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont choisi eux-mêmes les négociateurs. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est la communauté elle-même qui choisit, ou bien elle-même qui choisit les négociateurs. Mais la société avait déjà choisi ses négociateurs. Et elle-même, la société elle-même a choisi des projets à réaliser.
C'était qui? Des notables de...
Oui, des notables, les chefs de localité, les chefs de
chefs coutumiers,
les enseignants qui sont des leaders communautaires sur place là-bas. Et disent donc, ils sont venus, ils ont choisi leurs propres projets à réaliser. Notamment des écoles, notamment une route uniquement qui mène vers les forêts. c'est pas une route d'intérêt communautaire.
Donc c'est pour évacuer les bois qui sont les légumes, en fait, qui sont coupés.
Et puis, une autre chose qu'ils avaient déploré, il y a lieu, c'est un secteur, très grand secteur, qui a à peu près 4 groupements. Logiquement, ils disent, nous, on voulait que chaque groupement signe son propre cahier des charges. Mais ce n'est pas le cas. Mais ils nous ont mélangé tous et nous ont fait signer un seul cahier des charges. Et c'est la société elle-même qui choisit là où elle va construire une école, là où elle va implanter, réhabiliter une route, là où elle va faire tel autre projet. Et ce qui n'a pas été d'accord avec la société, et avec les communautés locales, et ça a créé beaucoup de problèmes là-bas sur place.
Mais est-ce que l'accessibilité était bonne pour atteindre ces territoires quand vous êtes parti
Non, c'est très compliqué d'ailleurs. Depuis Kisangani, il fallait prendre des motos. C'est à peu près 350-400 km. Il faut traverser des rivières avec des motos. Et même là où la société elle-même exploite les bois, il n'y a pas de route aussi. Pour accéder à sa concession, c'est une seule route qui est aménagée, une petite route sentier
directement. En terre battue?
En terre battue, qui est aménagée, juste pour évacuer ses propres machines, ses propres bois.
Merci. Monsieur Martin, dites-nous, est-ce que dans ces conditions, est-ce que la population, les communautés locales, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour jouir de leurs droits? Parce que là, ils voient des grimes être coupées et puis des bois qui viennent ici à Kinshasa, qui partent à Matadi. Est-ce que localement, on peut aussi recourir à la main-d'œuvre locale pour les activités qui sont réalisées dans ces concessions-là, pour donner un peu de l'emploi et créer des revenus localement?
D'abord, la première des choses, c'est une interpellation au ministère national de l'Environnement. C'est que tel que l'ami l'explique.
Bien fait
l'explique. Il s'agit d'une exploitation frauduleuse. Parce que, d'abord, il y a une obligation légale qui impose la réalisation préalable des études d'impact environnemental de manière transparente et indépendante. Une mauvaise étude, une fausse étude ou l'absence d'étude impacte sur la résiliation du contrat. On ne peut même pas arriver à la signature du contrat d'exploitation. Ça, c'est la première des choses. Et donc, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a une interpellation qui est faite pour essayer de pouvoir non seulement regarder ces cas précis, mais aussi regarder la politique nationale sur l'exploitation forestière. Parce que dès lors que ça commence comme ça avec les communautés locales, mais pensez-vous que cette société va respecter les normes d'exploitation des forêts? Parce que quand on va pour exploiter les bois, pour couper les bois, ce n'est pas n'importe comment on les fait. Et donc, ce sont ces genres de sociétés qui vont faire une surexploitation. Ça veut dire qu'ils déclarent autre chose alors qu'ils font plus. Ce qui fait que aujourd'hui, parfois, nous sommes en train de perdre parfois notre capacité, notre dimension de notre quantité de forêt par rapport à ce genre de fraude.
Oui, parce que les quotas prélevés doivent être définis au préalable.
Doivent être définis au préalable. Et quand vous allez sur terrain, c'est autre chose qui se fait. C'est une surexploitation. Et il y a la corruption, il y a les magouilles, des choses comme ça, qui font à ce qu'on arrive à encourager ces genres d'exploitants. Ça, c'est la première des choses. Et au niveau national, au niveau local, les communautés locales ont le droit de pouvoir s'opposer à une telle exploitation. Et ils sont en droit de pouvoir le faire en saisissant le responsable, si c'est le chef de secteur, le chef de territoire, en saisissant le représentant du ministère de l'Environnement, parce que tous ces ministères-là ont
des représentations
au niveau
provincial. Ces acteurs sont déjà mis en confiance par l'entrepreneur qui arrive, donc c'est compliqué.
Et déjà là, ça va être une complicité qui peut friser l'association des malfaiteurs et ça risque de se tourner mal contre ceux qui entrent en collision avec ce genre d'exploitants de mauvaise foi. Et après cela, ils peuvent se saisir le gouverneur de province. En tant que chef de l'exécutif provincial, ils peuvent également les saisir. Mais aussi, ils peuvent par un mémorandum, par une lettre au président de la République, au ministre et même à la justice, s'opposer, démontrer que leurs droits ont été violés en termes de consentement libre, éclairé, qui est impréalable, en termes de la réalisation des études d'impact socio-environnemental, en termes de cahier des charges, ce n'est pas à une société, ce n'est pas à un exploitant
qui va amener un modèle donné.
Qui va amener un modèle prêt à porter pour faire gober ça à la population. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'exploitant vient, il entre dans le dialogue avec la population locale et c'est cette population qui lui montre ses priorités. C'est pourquoi on parle même du plan de développement local. Parce que dans le plan de développement local, tout est défini en termes d'infrastructure, en termes de tout ce qu'il faut faire pour booster le développement de la communauté. Maintenant, quand une société vient, c'est autour de tout cela qu'on va essayer de discuter. Et après avoir réalisé les études d'impact social et environnemental, on constate qu'il y a tels impacts pour les compenser. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi on parle du cahier des charges. Et donc, ce n'est pas à un exploitant, ce n'est pas à une société de pouvoir choisir que moi, je veux construire telle école à tel endroit, moi, je vais construire telle route à tel endroit, moi, je vais choisir... C'est même quelqu'un qui peut dire, non, voilà, moi j'ai choisi de mettre un groupe électrogène comme ça. Pour moi, c'est ça, le développement communautaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une exploitation frauduleuse. Et moi, j'ai commencé d'abord par interpeller le gouvernement central, le gouvernement au niveau national, parce qu'avant que ces gens-là aillent entrer en contact avec la population locale, la porte d'entrée est ici à Kinshasa.
Oui.
Et donc, ce sont les premiers qui sont interpellés. Et si ce genre de choses se passent, est-ce qu'ils sont au courant ou ils ne sont pas au courant? S'ils ne sont pas au courant, il y a défaillance dans la gouvernance. S'ils sont au courant et qu'ils ne font rien, il y a un problème, soit de corruption, soit d'arrangements frauduleux, et ils doivent répondre. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les institutions comme l'UGF
fassent également des contrôles rigoureux dans le secteur.
Les contrôles dans ce secteur-là, le secteur forestier, le secteur minier.
Oui, monsieur Bienfait, vous êtes également documenté du côté orpaillère, exploitation mais des exploitants miniers. Est-ce que c'est le même constat dans cette région-là?
Partout où nous sommes passés, le constat est pareil. Et en ce qui concerne l'exploitation minière, nous étions rendus dans le secteur de Bangela-Monganjo. C'est à peu près à 100 km de là où nous étions à Yaliwasa. Là, il y a une société chinoise, heureusement, qui a été fermée après notre reportage, après la publication de notre reportage. Une société chinoise qui s'appelait Xiang Jiang Mining qui exploitait l'or là-bas, dans la rivière Aruimi. La société, quand elle est arrivée, elle avait obtenu à Kinshasa le permis de recherche. À peu près 4, je pense. Et le permis de recherche avait déjà expiré. Mais malheureusement, la société avait triché. Après l'expiration du permis de recherche, au lieu de revenir à Kinshasa pour renouveler, ou soit passer, obtenir le permis d'exploitation, ils sont passés directement à l'exploitation, sans permis d'exploitation, sans négociation des clips, sans signer les cahiers de charges avec la population. Et plus grave encore, parce qu'ils exploitent l'or en pleine rivière, qui est la source d'eau, l'unique source d'eau de la population. La population là-bas vit de la pêche, principalement, et elle se retrouve le matin comme ça, l'eau a changé de couleur. Vous voyez, c'est des produits chimiques qui sont jetés dans la rivière. Et la population, elle se plaint beaucoup. Il n'y a pas de poissons. La population dit, on est né ici, nos ancêtres sont nés ici, on vivait que 10 poissons, nous ne vivons que 10 poissons. Mais aujourd'hui, attraper les poissons dans la rivière,
ça devient un problème.
Ça devient un miracle. Non seulement ça, mais aussi les eaux.
De consommation et d'usage des activités courantes. Ouais.
Aujourd'hui, ils n'ont pas de l'eau à boire, ils n'ont pas de l'eau à utiliser dans les ménages. Et ça crée même des maladies. Vous voyez, c'est des produits chimiques. Et lorsque les femmes utilisent cette eau-là, il y a des maladies.
Et peut-être des malformations congénitales à la longue.
Des lésions vaginales. Chez les enfants, il y a des maladies bizarres qu'ils ne connaissaient pas auparavant et qui sont apparues directement comme ça. Et malheureusement, il n'y a personne qui intervient.
Dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, cette fois-ci, on va aller au standard hein, pour écouter les auditeurs qui nous suivent. Que faut-il faire hein, pour promouvoir la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles en RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Esaïe, vous êtes à Mouéka, bonjour.
Bonjour, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité qui est sur le plateau. Je voulais intervenir en vous posant une question. Qu'est-ce que l'État congolais a fait avec les sociétés qui avaient dérangé la rivière Tchikapa, puisque jusqu'alors cette rivière, la pollution de cette rivière continue à chercher beaucoup de problèmes ici au Kasaï. Il y a des maladies, les gens sont dérangés par la à travers la pollution que ces gens-là avaient fait. C'est pourquoi je voulais savoir le dossier-là est à quel niveau. Qu'est-ce que l'État congolais a fait? Et aussi, comment beaucoup de sociétés exploitent les minerais seulement à Lubumbashi? Mais ici au Kassai, il y a par exemple le diamant. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui exploitent. Je voulais savoir, c'est ça la question que j'avais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Esaïe. Nous rappelons que vous nous appelez depuis la ville de Mouéka. Vous avez fait allusion à la pollution hein, de la rivière Tchikapa. Ça a défrayé la chronique hein, il y a une année ou deux ans, je me rappelle. Bienfait n'a pas mené une enquête dans cette zone, mais on va essayer de commenter les sujets parce que vous l'aviez évoqué. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Mouéka que vous intervenez. Malonga, vous êtes à Kinshasa, on vous donne la parole.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'invité, à tous ceux qui nous suivent.
C'est plutôt Tati qui a l'antenne. Allez-y.
Ah, Tati, oui. Ok, Tati Mapoko. Bon, concernant notre sujet, vous savez que peut-être nous avions déjà débattu de tels sujets, mais moi personnellement, j'ai fait allusion aux décideurs. Vous voyez, les exploitants, s'ils viennent, ils commencent ici à Kinshasa pour descendre au Congo profond. Si ils arrivent là, ils ont bien outillé, documenté. Et si la population locale commence à demander leurs droits, ils brandent seulement ces documents-là et ils disent que non, nous sommes déjà en ordre. Et là, la communauté qui est présente là-bas n'aura pas encore d'autres droits de réclamer comme il faut. Bon, pour réglementer ce secteur, il faut que l'État, c'est l'État toujours qui est responsable de l'étendue. Alors, s'il donne le courage ou bien l'autorisation à un exploitant, il faut aussi l'État instruire à cet exploitant que là, il y a aussi les gardiens ou bien les sentinelles, je peux dire à ce sens-là. En plus, la population qui est là garde la forêt, garde les eaux, garde tout ce que les exploités cherchent. Et si ils arrivent là, ils doivent aussi récompenser en termes de redevances à cette population. Construire même les écoles, même les églises, même les routes, même le pont, et ça peut leur faire du bien. Mais si ils encouragent seulement qu'ils ont déjà payé tout, bon, c'est votre État qui doit faire cela. Vous voyez qu'il y a une contradiction entre l'État et ce projet-là. D'où la population, si il finit, elle finit à se moquer à ses exploitants, vous voyez l'État aussi va envoyer un ordre là-bas et sera massacré. Ce que je veux demander à l'invité, au moment où la population, si elle décide que même ces exploitants arrivent sur terre. Ils ont tout, leur document, tout ça, mais s'ils ne répondent pas aux revendications de la population, ils ne travailleraient pas. Est-ce que ça sera une mauvaise décision ou bien une mauvaise réaction de la part de la population.
Merci beaucoup, M. Malonga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Monsieur Bienfait, vous étiez en train de peindre le tableau sur du côté exploitation minière, hein, dans la zone où vous êtes allé mener les enquêtes. Allez-y, développez ce que vous avez fait comme constat sur terrain.
Oui, Yalio Satouko me a balingé la Monganjo. Malheureusement, j'ai pu l'affirmer que les exploitants sont protégés par nos forces de l'ordre. Vous verrez la police. Vous verrez les militaires là-bas. Et qui affecte les militaires?
Ce sont les autorités.
Nous l'avons tous. Et on a échangé avec la société civile, beaucoup de leaders locaux là-bas. Ils disent, chaque fois que nous voulons revendiquer, et ils sont toujours au courant, ils ont laissé des renseignements, les sociétés, et vous verrez, le matin, les militaires ou les policiers débarquaient de Kisangani. Du coup,
On envoie un convoi de militaires.
Et pourtant, rappelez-vous, j'ai dit que c'est l'exploitation illégale. La société, par exemple...
Le permis avait déjà expiré.
Mais la société a travaillé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils n'ont jamais signé les cahiers des charges. Ils n'ont jamais mené l'étude d'impact environnemental et social. La société a pollué l'eau. Il y a eu des maladies. Mais chef, quand la population veut revendiquer, il y a des militaires qui arrivent. Alors, je ne sais pas qui est responsable de tout ça. Mais malheureusement, c'est ça.
Oui, M. Martin, l'auditeur de Mouéka, il a remis sur nos esprits les problèmes de la pollution de la rivière Kasaï.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier notre...
Parce que jusque-là, on a parlé réparation, et puis plus rien.
Je voudrais remercier notre compatriote de Mouéka,
Isaïe
et Chikapa, que je connais très bien. Où j'ai étudié au complexe scolaire Bob Mbouitou, qui se trouve dans la ville de Tchikapa. Et donc, je connais bien la rivière là, je l'ai traversée pendant près de 5 ans de mes études, parce que j'habitais à Dibumba, ceux qui sont du coin vont se reconnaître, et j'allais étudier
à l'autre côté.
Et puis, donc, c'est une rivière où moi, j'ai eu à me laver et puis
à manger le poisson,
à manger le poisson. Et pour la petite histoire, j'ai même eu à perdre une chemise qui m'a glissé et qui était partie comme ça, comme je ne savais pas nager. Mais c'est vraiment un problème qui me touche profondément. On en a parlé avec l'honorable député Guy Mafutaka Bongo, qui était l'un des avocats conseils de la population locale dans le cadre de cette
pollution la rivière Kasaï,
de cette pollution lors de notre voyage ensemble à Nairobi. On a discuté de ça et jusqu'alors il m'a dit que la question s'est trouvée au niveau du gouvernement, parce que la pollution ne venait pas d'une société qui exploite au Congo. C'est une pollution qui vient de l'Angola. C'est une société pétrolière angolaise ou qui est basée en Angola, qui a déversé les déchets de son exploitation sur la rivière, et ça causait énormément de problèmes. Vous voyez des poissons qui viennent comme ça déjà décédés, et puis
et juste la coloration de l'eau aussi a changé
aujourd'hui,
pendant des semaines.
Il y a des mamans qui ont des maladies incurables de la peau. Et le problème, il y a même notre ministre national de Maman Eve qui était descendu sur place, et il y a des discussions diplomatiques qui ont été engagées pour que l'Angola puisse voir comment on essaie de réparer. Mais depuis lors, on n'a plus aucune information. Et c'est injuste. C'est injuste parce que il y a une population qui souffre. Peut-être quand on parle des rivières, la rivière pour ceux qui vivent au niveau des provinces, dans les Congo profonds, c'est une source vitale.
Voilà pourquoi on parle de l'économie bleue, monsieur Martin.
On parle de l'économie bleue. On parle aujourd'hui de l'économie bleue, l'économie qui est
basée sur... Parce que c'est un circuit économique.
Oui, c'est un circuit économique. Vous avez les pêcheurs qui vivent aux dépens de ces rivières. Avec cette pollution, il n'y a plus de la pêche. C'est que vous avez encore plusieurs milliers de chômeurs que vous avez
potentiellement créés.
Vous n'avez pas d'eau potable. Ça veut dire qu'il y a des maladies hydriques que vous avez encore mises sur place. Et puis c'est ainsi qu'il y a une recrudescence dans cette partie-là du territoire des maladies, des maladies virales qui sont vraiment constatées. Et ici, la première question, vraiment la première responsabilité revient au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Environnement, ils doivent nous dire où est-ce qu'ils en sont avec cette question. Il doit y avoir une réparation. Une réparation d'abord en nature, parce qu'il faut qu'on puisse
reconstituer les écosystèmes.
Les écosystèmes, il faut qu'on puisse nettoyer la rivière. Il faut qu'ils puissent nettoyer cela. On l'a vu notamment en Ouganda, on a vu, je crois, en Namibie aussi, où il y a eu une sorte de ces gens de pollution. Et on a obligé à la société de pouvoir, parce qu'ils gagnent des milliers, ils gagnent beaucoup d'argent. Ces genres de déchets, on construit des endroits appropriés pour le mettre. Ce n'est pas dans la nature comme ça.
On va déverser les déchets toxiques.
Et donc, je note vraiment la préoccupation de notre ami sur la rivière Tchikapa, qui est une rivière qui a aussi des répercussions, même ici au niveau du fleuve Congo. Parce que ça se jette.
Dans le fleuve Congo.
D'abord dans la rivière qui est Kasai puis... après Kasai, fleuve Congo. Et donc vous voyez que même cette pollution peut avoir des répercussions avec d'autres rivières, Kouilou, et ainsi de suite, et toucher l'ensemble de la population. Et donc, ces dossiers est resté sans suite. Et malheureusement, dans notre pays, c'est ça. Dès lors qu'il y a quelque chose qui sort après une semaine, on en parle après.
On oublie. On passe à autre chose.
On passe à autre chose. Il y a ce problème-là. Il a aussi parlé de l'absence des exploitants
dans les Kassai.
De l'or, alors qu'il y a aussi de l'or, des diamants. Du diamant et ainsi de suite. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que il y a une exploitation artisanale qui est avancée. Mais il y a aussi un problème de la politique nationale de gestion de ces ressources naturelles. Je crois que au niveau des Kamonia, si je me rappelle bien, il y a une société qui avait obtenu le permis de recherche pour essayer de pouvoir exploiter là. Mais le vrai problème, la vraie question, ce n'est pas les sociétés qui arrivent sur place, parce que même là où il y a des sociétés, quels sont les problèmes que nous avons par rapport à ces sociétés-là? Les sociétés créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Et là, ça pose énormément de problèmes. Moi, je crois que cette exploitation artisanale-là, si elle est bien rationalisée,
bien encadrée,
elle peut absorber la pression sociale, elle peut absorber les taux de chômage et elle peut aussi créer des richesses. Parce qu'à un certain moment, c'était vraiment des zones où il y avait... Et donc, il y a cette question-là.
Oui, nous allons retourner au standard. Il y a un auditeur de Bounia, il s'appelle Justin. Justin Kalabia, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour aussi à notre invité.
On vous donne la parole, allez-y.
Merci beaucoup, monsieur Tati, en tout cas, de m'avoir associé dans cette très bonne émission. Car cette sujet, monsieur Tati, quand je l'ai lu le matin, les larmes m'ont coulé, en tout cas. Monsieur Tati, nous avons souvent un slogan dans ce pays, on dit nous sommes, notre pays est potentiellement riche, mais la population est toujours pauvre. Pourquoi? Parce que nous avons une très mauvaise gouvernance. Monsieur Tati, nous avons combien de sociétés minières dans ce pays? Nous avons Kibal Goldman, nous avons Alpha Mine, nous avons la Gécamine, pour ne citer que cela, monsieur Tati. Maintenant, est-ce que la population, monsieur, je pose d'abord la première question à notre invité. Depuis que toutes les sociétés minières, je suis dans les sociétés minières. Depuis que toutes les sociétés minières ont commencé, nous avons société de Kilomoto, plusieurs sociétés ici. Monsieur Tati est notre invité. Depuis la création de toutes les sociétés, la population congolaise a gagné quoi? Nous n'avons pas de route, comme les sujets précédents, nous venons de les discuter. Nous n'avons pas de courant. Alors que nous avons des Chinois dans ces pays, tout le monde connaît que les Chinois sont en train d'exploiter illégalement nos ressources. Alors là où les Chinois sont, ils prennent toutes nos richesses et ils vont à Kinshasa et c'est Kinshasa qui octroie tous les documents et ils viennent sur terrain. Et parfois, nous aussi, il y a certaines populations qui voient aussi, qui sont aussi mécontentes de voir les Chinois comment ils exploitent nos ressources illégalement. Nous, nous prenons ça illégalement parce qu'ils s'attendent avec les autorités qui disent ça. Et nos députés ne sont pas des parlementaires ici que nous avons des étiquettes. Et puis, M. Tati, tant que la population en bénéficie. Maintenant, ma deuxième préoccupation. Pourquoi l'État congolais peut laisser seulement des exploitations illégales de nos richesses sans avoir des redevances? Je suis maintenant dans les ressources minérales des eaux. Nous avons des lacs, M. Tati, nous avons des lacs, nous avons des rivières. Les lacs même les plus poissonnés au monde, ça se trouve dans ces pays. Mais quel est le social de la population congolaise? Donc c'est vraiment regrettable que chaque jour, nous continuerons toujours à pleurnicher que non, disons qu'on a vu ça, alors que nos autorités, nous la population, bon, vraiment c'est, ça peut être aussi peut-être à partager, mais c'est la grande partie, M. Tati, c'est nos autorités.
Oui, mais Justin, vous êtes à Bounia, en Ituri, il y a beaucoup des exploitants miniers dans cette partie du pays. Vous voulez dire que les activités qui sont menées dans cette zone n'entraînent pas le développement des communautés locales? Les communautés locales ne tirent pas profit de ces activités-là?
Tout à fait, M. Tati. Donc, si parfois il y a des jeunes qui prennent des armes, c'est suite à ça. Quand il y a des exploitations illégales, que les Chinois viennent, soit les Américains viennent, alors que la population congolaise n'a bénéficié de rien. C'est ce qui est justement, que permettez-moi en tout cas d'employer les termes de tout le monde. C'est ce qui dérange le peuple congolais.
Merci beaucoup, M. Justin Kalabia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, hein, que vous intervenez. Bien fait, vous qui étiez sur terrain, est-ce que ces entreprises, ces entrepreneurs étaient réceptifs quand vous êtes allé pour vous renseigner, vous documenter auprès des sources officielles qui sont des entreprises qui exploitent les minerais et puis les bois?
D'ailleurs, ils ne voulaient pas nous recevoir. Il avait fallu qu'on fasse les forcing pour arriver. Par exemple, à Bangela Monganjo, là où il y a Xiangjiang Mining, ils ne voulaient même pas qu'on soit reçu. Ils avaient même déployé la police, des militaires pour nous empêcher d'accéder à leur site. Et on était tenus à presque un kilomètre. On avait fait les forcing pour arriver au moins à un kilomètre. On observait les drags motorisés de loin. Mais au moins, on voit ce qu'ils faisaient quand même. Et c'est grave. Et l'auditeur a dit s'il y a des complicités ici et là. Moi, j'ai dit, on n'a pas réussi à identifier les complicités. Mais oui, il y en a. Parce que pour déployer des militaires, pour déployer des policiers, il faut qu'il y ait des documents, il faut qu'il y ait des autorisations. D'ailleurs, en quittant Kisangani pour aller à Bassoko, on avait voulu nous renseigner auprès des services de l'État là-bas, notamment la coordination provinciale de l'environnement, la division provinciale des mines et tout.
Parce que quand vous êtes arrivé, première étape, vous êtes allé vous présenter.
Nous présenter d'abord aux autorités provinciales. Et on nous avait complètement découragés. On nous avait dit, vous allez faire quoi là-bas? Il n'y a pas de sécurité là-bas. Et ils avaient complètement refusé de nous donner le document. Complètement refusé. Et nous, on a fait les forces. On s'est dit, non, on a quitté Kinshasa.
On est venu travailler.
Nous allons travailler, peu importe les conditions. Effectivement, nous sommes arrivés là-bas. Et on a quitté Bassoko Centre. On a pris des pirogues motorisées, parce que c'est accessible uniquement par des pirogues motorisées par la rivière. À peu près 70-100 km comme ça. Et on est arrivé, ils étaient déjà informés. Là-bas, il n'y a pas de réseau téléphonique, mais curieusement, les Chinois, ils ont des téléphones.
Déjà au courant.
Ils ont des téléphones satellitaires. Mais la population n'a pas de téléphone.
Et ils étaient au courant que
nous sommes en train d'arriver, oui. Et ils nous attendaient déjà. Ils ont voulu nous tenir loin de leur base. Et on s'est battu, on a fait le forcing, on a monté nos documents, et on est arrivé quand même là-bas, c'était grave.
Oui. Et la société civile était réceptive à l'objet de votre enquête?
Oui, la société civile nous a reçus, nous a donné beaucoup d'éléments, et ils en ont quand même. Et malheureusement, elle est impuissante. Elle est peu que dénoncée, mais s'il n'y a personne pour réagir, s'il n'y a personne pour les écouter, elle va faire quoi?
Martin Milolo, l'auditeur de Bounia, qui a dit que l'exploitation de minerais n'a rien apporté comme développement dans cette partie du pays, et pourtant il y a beaucoup d'exploitants miniers dans cette zone.
D'abord, je voudrais dire que une société qui exploite avec un permis périmé ou dépassé, c'est une société frauduleuse. Ce qu'il faut est que les parquets, les autorités locales doivent se saisir du dossier pour les interpeller. Peut-être que les informations peut-être ont été autres que ce qu'ils puissent s'expliquer. Ils s'expliquent d'abord pour savoir. Vous savez, parfois on a, lorsqu'on parle des Chinois, on n'a pas un bon souvenir de nos amis là en termes d'exploitation de nos ressources naturelles. Vous savez, le problème de la cicomine, c'est le problème qui englobe tout ce que nous sommes en train de débattre.
D'évoquer maintenant.
Le Congo a les minerais, on exploite les minerais, mais le Congo ne gagne rien. La population, et même quand on dit que le sol appartient à l'État, oui, mais la population locale là, sont des ayants droit. Oui. On les appelle les ayants droit terriens. Et donc, ils ont les droits
de jouir des ressources.
C'est pourquoi, oui, il y a même les normes internationales. Notre pays a adhéré à ce qu'on appelle l'ITIE. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et nous avons même un secrétariat national ici, et de l'ITIE. Nous avons une société civile qui participe à l'ITIE. On a même des exploitations. Il ne faut pas qu'on oublie que tout ça fait partie d'un cadre international qui est bien précis. Et une société qui s'aventure peut voir même ses portes être fermées et peut être assignée. Parce que si c'était dans l'autre camp, si c'est la société qui est préjudiciée par l'État congolais ou par la population, elle aurait attrait soit l'État congolais en justice pour que on puisse payer les dommages, intérêts, ainsi de suite. Mmh. Et donc, il y a des problèmes à ce niveau-là.
Oui.
Et le problème qui s'impose, et même la question posée par notre ami de Bounia, moi, je lui réponds avec l'exemple de la Sécomine et avec le récent exemple de Primera Gold. Et donc, ce sont des choses où vous avez des gens qui viennent, qui vont exploiter nos ressources et gagnent, et la population reste pauvre. Mais le problème reste, comme on l'a révélé dans le cadre des Sécomines et des autres, le problème reste dans la corruption. Voilà pourquoi on interpelle aussi l'ITIE, que ce soit par rapport à la question des Bassoko. J'interpelle l'ITIE. Et je cite nommément le coordonnateur du secrétariat national, M. Jean-Jacques Kayembe, de pouvoir se pencher sur cette question, parce que l'UTIE fait partie la question forestière fait partie de l'UTIE. Et donc, la question...
Monsieur Martin, on donne d'abord la parole à un auditeur qui nous appelle. Il est en ligne, il intervient depuis Kolo, c'est au Congo central. Victor, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. En fait, je suis la discussion, mais je me demande pourquoi l'État congolais, tous les gouvernements qui se succèdent, n'arrivent toujours pas à satisfaire les intérêts de sa population, alors que nos amis sont élus pour ça. À ce qui me concerne ici, ma préoccupation, c'est surtout les petits exploitants. Dans le Congo central, à part la grande forêt du Mayombe, nous avons des bosquets, des petites forêts. Mais ceux qui font les ratissages, ce sont des gens qui viennent avec des tronçonneuses, et très souvent, les paysans entrent dans des villages, ils se battent, parce que ces gens-là, ils viennent, ils négocient avec une personne, et à la fin, vous allez retrouver que c'est une autorité, c'est un militaire, sinon c'est un magistrat, ou alors c'est un ministre. Donc, bref, ils prennent des couvertures des autorités, et dans le Congo central, bientôt là, il n'y aura plus d'arbres. Quel genre de disposition nous pouvons réellement prendre dans ces cas? Et l'exploitation minière, je ne voudrais même pas parler. Moi, je suis en cours à 50 km de Mbanzangongo. L'exploitation minière Ne parlons même pas de ce qui se passe avec l'exploitation pétrolière à Moanda, où pratiquement la pollution est là, visible, et l'État même qui promet les 10 millions de, je ne sais pas comment on a appelé ça, jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année, les 10 millions n'arrivent pas. Entre-temps, nous subissons la pollution, et entre-temps, l'État est roulé dans cette histoire-là, parce que depuis Mobutu, c'est la même quantité de pétrole qu'on a toujours exploité. Mmh. Moi, je crois que j'ai été en Amérique latine, j'ai été aussi en Asie. Là, il y a la société civile qui arrive à porter plainte, à se garantir partie civile, déposer des plaintes, et voilà, ailleurs on gagne. Dernièrement au Nigeria, il y a un groupe qui a gagné contre la grande exploitation pétrolière, je crois, des Anglais. Donc nous devons faire cela. Parce que nos autorités ne nous écouteront jamais tant qu'on les laissera faire. Donc il faut vraiment que la population s'organise. C'est pas seulement un problème d'autorité politique, mais parce que la population est trop lâche, la population ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Et dans tout cela, les intellectuels qui doivent accompagner la population, malheureusement, les intellectuels faillissent aussi à leur... Monsieur, voilà, c'est mon point de vue.
Merci beaucoup, Monsieur Victor. Hein. C'est plutôt une interpellation collective. Merci, hein. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. À Kolo, au Congo central. Monsieur Bienfait, dans votre grand reportage, vous êtes arrivé à quelle conclusion?
À notre conclusion, on a fait des recommandations au gouvernement, notamment. Et heureusement, nous avons compris, pour ce qui concerne la société minière, Xinjiang Mining, et parce qu'un jour après la publication de notre reportage, la société a été fermée, ces décisions du président de la République, ces recommandations du président de la République. La société a été fermée. Il y a même des documents qui ont été signés par la ministre des Mines. Il y a eu retrait de tous les permis.
Retrait de permis, oui.
Suspension, oui. Et certains Chinois ont été arrêtés et transférés à Kisangani en justice. Je ne sais pas maintenant où se trouvent les dossiers. Ils doivent m'informer davantage. Et les autres ont fui, malheureusement. Mais le problème, on s'est dit, au niveau interne, alors. Les complicités au niveau interne.
Voilé,
parce qu'il y en a, il y en a, oui. Parce qu'on ne peut pas déployer des militaires. Il y a même mort d'homme, je signale. Même mort d'homme là-bas. On ne peut pas polluer l'eau que la population utilise, toute une population utilise, et rester comme ça impuni. Mais malheureusement, au niveau interne, on ne sait pas où se trouve. C'est malgré la société a été fermée. On ne sait pas ils sont à quel niveau les négociations aujourd'hui. Et les robots motorisés, les bacs motorisés ont été
retirés
à Minéjiska Kisangani.
Monsieur Martin, vous, au niveau de la justice climatique, est-ce que vous avez également des actions?
Oui, allez-y. Oui, je peux ajouter aussi, il y a la société Fodeco aussi, qui avait été suspendue. Et j'ai lu les récents revues légales. La société n'a pas été réautorisée de rouvrir, mais apparemment, il y a des négociations qui continuent. Ou je ne sais pas, améliorer, changer, je ne sais pas.
Oui, ils n'ont qu'à se conformer aux normes, c'est le plus important. Hein. Monsieur Martin, vous, au niveau de la justice climatique, est-ce que vous avez des actions, vous menez des actions dans le sens d'éveil des consciences pour les communautés locales? Est-ce que vous avez un dernier mot, parce qu'on est presque à la fin de notre entretien?
Oui, d'abord, la première des choses, c'est que si on regarde dans la plupart de toutes ces sociétés mafieuses qui font de magouilles que nous sommes en train de déplorer ici, on va voir qu'il y a un parrain politique quelque part. Il y a même un acteur de la société civile qui a dit que chaque contrat minier a un parrain politique à côté. Et donc, il y a ce problème.
Qui est à l'ombre, là.
Qui est à l'ombre. Et donc, il faut en tout cas accélérer la lutte contre la corruption dans ce secteur. Parce que pour signer ces contrats-là, on sait comment ça marche. Pour donner le courage à tous ces Chinois de pouvoir avoir cette arrogance-là sur la population, sur le paisible citoyen, ce n'est pas en vain. Et donc, il faut mettre la main sur ces réseaux-là, mafieux. Maintenant, au niveau de la justice climatique, nous disons que ces communautés-là sont en première ligne sur les cas dans les cas de la lutte contre le changement climatique. Et ce qu'on est en train de faire là, on est en train de les dépouiller des minimums nécessaires. Et voilà pourquoi nous, on est en train de pouvoir non seulement faire des veilles de conscience, parce que cette population doit reconnaître ses droits, mais aussi au niveau du gouvernement, nous sommes en train de faire les plaidoyers au niveau du gouvernement pour que les ressources naturelles puissent être non seulement préservés, mais
qu'il puisse aussi, qu'elle puisse aussi être exploitée de manière durable.
Nous le considérons comme votre dernier mot, monsieur Martin Milolo. Merci d'avoir été avec nous dans cette tranche. Bien fait. Merci à vous également d'avoir décortiqué l'enquête que vous avez réalisée dans la province de la Tchopo. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion.
Merci.
C'est par ici que prend fin au capi service que vous a présenté Tati Mapoukou, sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Gombo était à la réalisation et à la coordination de cette émission, et Jean-Noël Mokolo s'est occupé de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de nos programmes.